Yes, yes, yes. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va les jeunes? Hey, j'ai entendu l'un d'entre vous, je ne sais pas si c'est ici ou devant, qui avait prié. Je trouve ça tellement super. Moi, quand j'entends un enfant, un jeune prier, ça m'encourage. Saviez-vous ça? Que les adultes peuvent être encouragés par vos prières? Des fois, ça nous gêne un petit peu de prier comme ça à haute voix. Mais on ne réalise pas que ça fait du bien à tous ceux et toutes celles qui sont autour. Je suis content de vous voir ce matin. Ça va les adultes? Oui. En forme? Oui. Wow, ça sent la fin de l'année. Ça sent la fin de l'année. Yes, yes, yes. Je suis content de vous voir aujourd'hui. La semaine passée, ou je ne sais plus quand, ou il y a deux semaines, bref. Laissez-moi vous regarder un petit peu. Parce que je suis arrivé, j'ai pas pu voir tout le monde. Hey, c'est cool, je suis content de vous voir. Sérieux, c'est vraiment le fun. Je suis content de finir l'année avec vous ensemble. Lors de la dernière cellule, une des cellules dans notre pays de Jex, j'allais comme ça en visite et Jean-Paul a partagé un texte biblique, comme ça se fait dans toutes les cellules. Et à la fin, je suis sorti, je dis écoute. J'ai une permission à te demander. Permission, OK. J'ai dit, est-ce que je peux utiliser le texte que tu as partagé ce soir? Ben, il dit, c'est la Bible, tu n'as pas à me demander. Je fais, oui, je comprends, mais comme je sais que tu prêches le 5, parce que moi, c'est mon dernier message de l'année 2019 et Jean-Paul va vous apporter le premier message de 2020. J'ai donc, comme je sais que c'est un texte qui semblait te tenir à cœur et que tu prêches le 5, je vais juste être sûr de ne pas te le piquer, tu vois. Donc après un long temps de jeûne et prière, il m'a dit « Vas-y, tu peux... » Et vous allez voir que c'est un texte inhabituel. Je vous dirais que c'est un message de fin d'année et oui, de Noël. Surtout de fin d'année, mais on va quand même finir comme il faut sur la dimension de Noël. Un texte inhabituel pour une saison comme celle-ci. Et le titre du message est « Terre en vue ». Terre en vue. Et je crois que lorsqu'on annonce la naissance de Jésus, c'est comme ça revient à crier « Terre en vue !» Vous savez, après un long, ben peut-être vous ne savez pas, moi je ne le sais pas en fait, je le sais théoriquement, mais un long voyage en mer, à un moment donné, l'eau, c'est bien beau, mais tu as besoin d'avoir du solide. Et quand on criait « Terre en vue !» Yes, on arrive à la maison, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est la nouvelle étape, etc. Et c'est le titre du message de ce matin. Et avant d'oublier, en parlant de terre en vue, je sais que c'est rare qu'on va mentionner ce genre de choses-là, mais Josette et Jérémy, vous êtes là? Oui, Baum Wilson, vous êtes là? Yes, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, juste parce que tout le monde ne vous connaît pas, mais voilà, Josette et Jérémy, c'est leur dernier dimanche ici. Vous pouvez vous rasseoir. Ce n'est pas leur dernier dimanche à vie, mais pour les deux prochaines années, ils vont retourner... en terre en vue, ça va être leur terre en vue, le Sénégal, si je ne me trompe pas, Dakar, en tout cas pour deux années, eux et toute leur famille. Puis j'aimerais vous dire merci pour toutes les années que vous avez été là. Pour moi, c'est récent qu'on se connaît, mais tellement de plaisir et de joie à vous avoir fait votre connaissance. Alors, est-ce qu'on est d'accord que je puisse commencer avec un mot de prière pour ce message-là? Et Seigneur, je veux te dire merci pour chaque jeune, chaque personne, chaque visiteur, chaque invité, chaque famille, chacun d'entre nous. Et merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, ta grandeur. Et Seigneur, on veut se remettre entre tes mains, on veut te dire merci pour cette année qui s'écoule, qui vient, qui se termine tranquillement. Et on te demande aussi de bénir nos amis, nos frères, Seigneur, Josette et Jérémy, ainsi que toute leur famille. Accompagne-les, Seigneur, merci pour la bénédiction qu'ils ont été pour nous, Seigneur, et nous espérons l'avoir été aussi pour eux, évidemment. Mais Seigneur, accompagne-les, nous savons qu'ils seront une source de bénédiction là où ils seront. Accompagne-les, nous nous réjouissons déjà de les revoir lorsqu'ils pourront revenir faire un tour. Et je te prie pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, ou peut-être qu'on ne part pas pour deux ans quelque part, mais nous sommes dans une étape de notre vie. Nous avons, Seigneur, un horizon devant nous et on ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas trop à quoi va ressembler la prochaine année, notre vie de famille, notre vie personnelle. Et Seigneur, je te prie, viens, couvre nos arrières, ouvre notre marche et parle-nous, parle à nos cœurs et transforme-nous encore plus à ton image. On va te dire merci, Seigneur, parce que tu es né, tu es vivant, tu es mort et tu es surtout ressuscité. Tu es là et tu parles encore à nos cœur aujourd'hui, tu es celui qui console et encourage. Amen. Amen. un message un petit peu inhabituel. Je vais simplement vous lire le résumé comme ça, je suis sûr, à propos de ce message-ci. Voici, et si la ligne d'arrivée était moins importante que le chemin parcouru? Et si le nouveau territoire n'était pas exempt de danger? Et si la véritable conquête était autre chose que ce que nous avions imaginé jusqu'ici? Et si la terre promise renfermait une sainte exigence, aussi sainte que la nuit de Noël? Se pourrait-il que la nativité, tout à coup, fasse naître en nous une crainte nécessaire, parce que salutaire? Noël serait-il toujours aussi joyeux à nos yeux? Terre en vue jette un faisceau lumineux dans la noirceur de nos cœurs tortueux. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit. Prochaine diapo. Et je ne me suis pas trompé, non, c'est pas... je sais que nous ne sommes plus dans les sept visages de Jésus, je sais. Mais ce n'est pas un hasard si... Oui, c'est certain que la conclusion de cette série, les sept visages de Jésus, nous montrait un portrait de Dieu en sept aspects. Et ce n'est pas par hasard si on le lit, cette fois-ci, non pas en suivant les numéros sur le cercle, mais dans le sens logique des aiguilles d'une horloge. On est très à l'aise avec le portrait d'un Dieu miséricordieux, le portrait d'un Dieu qui est juste, qui a manifesté sa justice en Jésus, le portrait d'un Dieu qui est puissant, on est très à l'aise avec ça. On est très à l'aise avec le portrait d'un Dieu qui est rédempteur, on le chante, c'est la saison de Noël. Nous sommes très à l'aise et réconfortés avec le portrait d'un Dieu qui est vivant. Et ô combien on est à l'aise avec le portrait d'un Dieu qui est fidèle, parce que pour plusieurs d'entre nous, nous avons vécu des trahisons, des abandons, et lorsqu'on découvre ce Dieu fidèle, « Waouh, j'aime ce Dieu !» Mais, pour la plupart d'entre nous, si nous voulons être honnêtes, nous sommes un petit peu moins à l'aise avec le portrait d'un Dieu qui est saint. Alors les enfants, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour faire simple, saint, tu voulais répondre, vas-y.
Ça veut dire
Ça veut dire qu'on fait ce qui est juste. Oui, ça veut dire ça aussi, effectivement. Comme j'ai dit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce qu'on fait est juste. Mais la notion de sainteté est une notion de quelque chose ou quelqu'un qui est mis à part pour une raison particulière. Voyez-vous, je vais vous l'illustrer de cette façon-là. C'est que Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est sans défaut, Dieu est sans malice, Dieu est parfait, il n'y a aucun défaut, zéro défaut. Et voyez-vous, je vois Dieu, je me vois par rapport à Dieu comme un autostoppeur sur la route de la vie, complètement boueux, ça fait un peu comme ces derniers jours, dernières semaines, pour ne pas dire derniers mois, où nous n'avons que de la pluie. Et là, je suis tout seul, en pleine route forestière, il n'y a pas de lumière, il fait nuit, je suis trempé, ça fait des heures que je marche, j'ai de la boue partout dans mes souliers, je suis tombé quelques fois, je suis sale, je suis plein de boue, et tout d'un coup, il y a la voiture du siècle. Mais la bagnole, toute belle, au milieu de cette pluie, au milieu de cette noirceur, au milieu de cette boue, il y a la voiture, dernier modèle, dernier cri, avec la peinture qui brille, la pluie coule, elle est tellement cirée que la pluie même, elle s'arrête pas sur la carrosserie, et le chauffeur s'arrête, baisse la fenêtre électrique, voiture full option, il n'y a pas une option qui manque là-dessus, les sièges en cuir, ça sent le neuf, c'est parfait, et la fenêtre se baisse. Le gars est habillé en dedans, clean cut, top sur son 31. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez monter dans la voiture? Ben tu m'étonnes que je veux monter dans la voiture. Mais en même temps je suis tellement sale. Ben oui je veux parce que je suis mal pris, je suis sale, ça fait des heures que je marche, que je tombe, que je suis sale. Je veux y aller. Ben vous êtes sûr? Parce que tu as vu dans quel état je suis, ta voiture, elle ne sera pas dans le même état quand je vais ressortir de là, tu comprends? Non, il n'y a pas de problème, viens. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Viens tel que tu es, installe-toi confortablement dans mon siège en cuir. Profite de la musique, des options, du chauffage, parce que là, il fait froid, tout ce qui s'ensuit. Mais parfois dans nos vies, on sait que Dieu, on l'a chanté, est un frère. Jésus est un frère, est un ami. Mais parfois dans notre vie, on se comporte avec Dieu comme cet autre autostoppeur qui, lui, va non seulement s'asseoir, mais en s'asseyant, oups, va faire tomber le micro. Voilà. Mais en s'asseyant, va faire quelque chose du style. Il y a des fois dans notre vie, on est un petit peu comme ça, on ne s'en rend pas compte avec le Seigneur. On a un petit peu quelque chose comme ça. Non seulement c'est propre, mais en plus, on va mettre les pieds sur le tableau de bord. Ouais, Jésus, c'est mon ami. Cool. C'est mon pote. Là, voyez-vous, on est loin de la sainteté de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je dirais, la grâce n'a pas sa place sans la proclamation de la vérité. À l'inverse, la vérité ne peut être proclamée sans l'annonce de la grâce. Alors, avec Jésus, des fois, on est comme ça. Au début, on n'ose pas rentrer dans la voiture, puis après, avec le temps, on met les pieds tout boueux sur le tableau de bord. Mais ce n'est pas parce qu'il m'accueille tel que je suis que je peux faire n'importe quoi dans sa présence. Je pense que même les adultes peuvent comprendre cette image. Et c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle, entre autres, de la sainteté de Dieu. Je vais avoir trois questions à travers les textes que nous allons lire. Un texte, je vous l'ai dit, inhabituel. Deutéronome, je sais que ce n'est pas un texte de Noël, on n'est pas dans Luc, ni Matthieu, ni... Deutéronome, c'est le texte que j'ai piqué à Jean-Paul. Chapitre 8, quand j'ai vu ce texte-là, j'ai dit, waouh, ça c'est un texte pour notre fin d'année, alors que nous avons vécu cette fin d'année sous cette thématique, un pas à la fois. Et parfois, le dernier pas est le plus difficile à franchir, mais nous allons le franchir ensemble, parce que s'il est parfois le plus difficile, il est aussi le plus satisfaisant. Deutéronome, chapitre 8, on va lire le chapitre au complet de façon progressive. La première question que je pose est la suivante. Le voyage, premier point. Qu'est-ce qui attire le plus notre attention? La ligne d'arrivée ou le parcours? C'est la question que je pose. On est dans un voyage, on arrive à la fin de l'année. En tant que chrétien, on voyage sur cette terre. Qu'est-ce qui attire le plus notre attention? La ligne d'arrivée ou le parcours? Le parcours, oh, ça, c'est une très, 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 c'est la bonne réponse. En tout cas, elle est excellente. Ce n'est pas la seule, mais c'est la réponse. Et souvent, on regarde l'objectif, et c'est important d'avoir des objectifs, c'est important de regarder devant, mais parfois on oublie le moment présent, on est tellement dans l'avenir, ou parfois on est tellement dans le passé, puis on ne vit pas le moment présent, et on a besoin de vivre le moment présent. Chapitre 1, les versets vont défiler à l'écran, on va les lire ensemble. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Contexte, Israël, ça fait 40 ans qu'ils marchent dans le désert, c'est de leur faute parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas fait preuve de foi, ils vont assumer la conséquence de leurs actes, ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert, mais Dieu avait une promesse pour eux, une terre promise, une terre où ce n'est plus le désert, on va le voir. Et on est dans ce contexte-là, et là Dieu va dire, vous observez le commandement, etc. Et si vous faites ça, et déjà avant d'aller plus loin, on voit que lorsque nous respectons le commandement, ça nous assure, notre vie est sauvegardée. Respectez les commandements et votre vie va être sauvegardée. Il y a une longévité garantie. Vous allez prospérer en tant que famille. Vos enfants vont pouvoir continuer à vivre. Il y a une conquête qui est assurée. Donc, il y a un commandement qui est là, mais pas pour nous alourdir, mais plutôt au contraire pour nous relâcher. Nous aider. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais tous ces commandements. C'est pour ça que c'est une bonne réponse, excellente réponse. Souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Souviens-toi qu'est-ce que ça a... et souviens-toi de ces moments-là où j'ai apporté des corrections dans ta vie. Et les enfants, lorsque les parents vous punissent et vous enlèvent soit votre téléphone, soit vos privilèges, soit ceci, c'est pas par plaisir de faire du mal et d'enlever quelque chose, mais c'est pour qu'on puisse prendre une leçon, amener une correction et puis s'améliorer dans ce chemin-là. Et Dieu les a amenés dans un point pour dire je vous ai humilié, je vous ai corrigé dans un but bien précis. C'est ce que nous allons continuer à voir au verset. Au verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne pour que tu ne connaissais pas et que n'avais même pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc là, pourquoi? Il est en train de mettre son propre peuple dans une situation de difficulté pour le forcer à chercher une ressource ailleurs. Et de cette façon-là, à travers l'épreuve, eh bien le peuple d'Israël va découvrir que la vie ne se résume pas au manger, au boire, au salaire que nous avons savons, mais qu'il y a une source, une ressource surnaturelle plus grande, plus forte, extraordinaire, qui est la présence de Dieu lui-même. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi pendant ces 40 années et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et il continue, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher, un pas à la fois, c'est moi qui le rajoute, dans ses voies et pour le craindre. On s'arrête ici juste quelques instants. Et en fait, il est en train de dire, voilà, la question était, qu'est-ce qui attire le plus notre attention? La ligne d'arrivée ou le parcours? Excellente réponse, le parcours. Et moi, je m'arrête dans ma vie et je veux me souvenir d'où est-ce que je viens. Je m'arrête et je me rappelle où est-ce que... Quel était le scénario de ma vie il y a juste un an, deux ans, trois ans en arrière? Puis je regarde aujourd'hui, puis je dis « waouh ». Puis je nous invite à faire cet exercice. Il y a eu des moments qui étaient difficiles, mais on a besoin de ne pas oublier ceci. D'où est-ce qu'on vient? Comment est-ce que le Seigneur nous a aidés? Comment est-ce que même dans les moments qu'on n'aurait pas voulu vivre, mais malgré tout, le Seigneur a permis que quelqu'un puisse nous consoler, nous aider, nous encourager. On a découvert quelque chose, on a appris, on a grandi. Et c'est le but du voyage. Dieu est en train, en fait, j'ai envie de dire que dans la réponse, ce n'est ni sur la ligne d'arrivée, ni sur le parcours que notre attention doit être fixée. Oui, sur le parcours, oui, mais surtout sur l'entraîneur. Tout coureur, tout marathonien sait très bien que la ligne d'arrivée est là-bas, il faut que je garde le focus, allez, courage. Mais beaucoup, c'est pas pour rien que le pas est le plus difficile, beaucoup, il y a deux catégories. C'est pas pour rien qu'on va dire... que la 99e marche sur 100, on arrête parce qu'on ne peut plus, il y a le facteur accumulation, on est fatigué. Il y a deux catégories, il y a ceux qui vont abandonner avant la fin, et il y a ceux qui vont tenir le coup. Et j'écoutais une marathonienne qui expliquait sa course, elle dit, et ce qui m'a tenu, c'était la voix de l'entraîneur qui roulait à côté puis qui me disait, OK, va pas trop vite, garde tes énergies. OK, maintenant, c'est le temps d'accélérer parce qu'on arrive. Et en fait, notre attention d'être à la fois sur la ligne d'arrivée, sur ce que l'on vit présentement, mais principalement, elle doit être sur l'entraîneur, sur Jésus, sur ce Jésus qui dit, OK, calme-toi, repose-toi, fonce, fais pas ça, mets pas les pieds sur le tableau de bord. On a besoin d'entendre cette voix-là. Et dans ce parcours, dans ce voyage-là, on a besoin de s'arrêter et dire, qu'est-ce que mon entraîneur, qu'est-ce que mon coach, qu'est-ce que mon Seigneur, mon Sauveur, est en train de me dire. Et le but de l'épreuve, c'était de faire ressortir quelque chose. Je vous ai fait passer par là pour voir jusqu'à quel point tu étais attaché à moi. C'est la pédagogie divine à travers la pénurie pour nous faire découvrir qu'il y a une ressource surnaturelle présente. Je ne suis pas en train de dire que systématiquement on souffre, il y a des souffrances qu'on s'est causées soi-même, il y a des souffrances qui arrivent comme ça, mais il y a des moments dans la vie où Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il est en train... En fait, souvent on va dire, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette épreuve? Mais on pourrait renverser la question à la fin de cette année. Qu'est-ce que Dieu a appris sur moi à travers ces épreuves? Quel est le message que j'ai lancé? Quelle est la réponse que j'ai donnée à Dieu? Qu'est-ce que Dieu apprend sur ma vie, sur l'état de mon cœur, sur mes motifs à travers les épreuves que j'ai traversées? Deuxième point, l'épreuve. On continue à partir du verset 7. La question est, où se trouve le véritable danger? Dans le désert ou la terre promise? Ah, où ça? Dans le désert. Oui, il y a beaucoup de dangers dans le désert. D'ailleurs, on va le lire. Où est-ce que se trouve le véritable danger? Dans le désert ou la terre promise? On continue au verset 7. Oui, pourquoi la terre promise? Qui c'est qui a dit la terre promise? Pourquoi la terre promise? Yes, parce qu'on peut se relâcher. Exactement. Ben voilà, la conclusion du message est faite. Merci d'avoir brûlé mon punch. Oui, et on va regarder en détail maintenant, effectivement, à partir du verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il y a une promesse, un pays de cours d'eau, de sources d'eau, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier. Peut-être aujourd'hui, ça ne nous parle pas, mais ça, c'est la richesse absolue pour cette époque-là de cultivateurs. Pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pays dont les pierres sont du fer et dont les montagnes duquel tu tailleras de l'airain, donc il y a toute la matière première qu'on a besoin. Lorsque Jusqu'au verset 17. « Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, voyez-vous, il dit « lorsque », il y a une promesse, c'est sûr, c'est pas une question. Tu vas vraiment à un moment donné manger et te rassasier. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or. » Là, tout le monde dit « Oui, amen !» Ça, c'est la bonne année, ça. « Et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, hein, le danger du désert, des scorpions, dans des lieux arides, sans eau, ça c'est l'autostoppeur du début, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, écoutez bien ceci, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Waouh! Il disait, avant, il dit, tes pieds ne se sont pas enflés à cause de la fatigue à travers 40 années, je t'ai protégé physiquement. Et là, il est en train de dire, fais attention que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Je t'ai fait traverser tout ça pour te faire marcher dans mes voies, puis il y a deux mots, marcher et pour craindre son nom. Pas pour avoir peur de qui est Dieu, mais pour respecter qui il est. Il est cet automobiliste avec la plus belle des voitures, la personne la plus habillée, la mieux habillée, et il mérite notre respect. Il mérite notre respect. Il nous promet un pays d'abondance, mais au verset 17, ça fait mal, ça frappe. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est impressionnant comment est-ce que, lorsque tout va mal, nous accusons Dieu. Lorsque ça va bien, nous nous vantons de nos mérites. Tout va mal, ouais, Dieu, sérieux, t'es injuste, puis tiens, pourtant je vais à l'église, puis j'aime les gens, puis je fais ceci, pourquoi Dieu, hein? Puis quand ça va bien, par contre, hey, on l'a tué, nous, la stratégie, là, hein? On l'a tué, l'affaire. Nous, on a compris, on sait comment ça marche. En tant qu'église, ce raisonnement peut être là. En tant qu'individu, tu pars une entreprise, tu pars un projet, peu importe, puis au début, tu es là, Seigneur, accorde-moi, ouvre les portes, les banques, les ceci, aide-moi, Seigneur, accorde-moi ta faveur, je fais tout ce que tu veux. Et lorsque ça arrive et qu'on est au sommet, et que les bilans financiers rentrent, puis qu'ils sont dans le vert, dans le vert, dans le vert, dans le vert, yeah. Je suis prêt à faire des conférences sur comment monter une entreprise. Je ne suis pas contre les conférences, je crois que ces richesses-là puissent servir à d'autres. Mais dans l'attitude du cœur, c'est, hey. Hein? T'as-tu vu un peu? Dans un contexte de situation de crise, moi, mon entreprise, elle est dans les tops. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et je pense que nous avons, pour la plupart d'entre nous, suffisamment d'années derrière la cravate d'expérience de vie pour se rappeler des moments dans la vie pour dire, Jésus fait, Dieu fait, il coupe les vannes. La personne la plus riche de cette terre, la plus populaire de cette terre, la plus reconnue de cette terre, avec le plus grand pouvoir de cette terre, Dieu dit, « Clouc, on ferme les vannes, c'est fini, ça ne rentre plus, c'est Dieu. » Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons. Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur. Et le plus grand danger, quelle est la plus grande conquête? Pardon, quel est le véritable danger, le désert ou la terre promise? Dans les deux. Désert, terre promise est un danger. Aux deux endroits, il y a du danger, mais la menace vient toujours de l'intérieur. Nous sommes toujours notre pire ennemi. Prends garde à ton cœur. Ce qui a divisé des églises, dans l'histoire de l'église, la majorité des fois, je ne parle pas des pays où ils sont en persécution, parce que même là, en fait même là, ça ne tient pas debout, parce que les pays où les églises sont en persécution sont dans une unité incomparable. Mais la majorité des fois où l'Église est détruite par l'Église locale, ça vient de l'intérieur, à cause de nos cœurs, de nos ambitions, de nos jalousies, de plein de choses. C'est le cœur. on a besoin de protéger nos cœurs. Et Dieu est en train de dire, vous allez rentrer, je vais vous le donner ce pays. 2020, je crois qu'on a des belles choses. Je ne suis pas en train de dire que ça va être tout rose, mais des belles choses qui nous attendent, comme on a vécu des belles choses en 2019. Mais lorsque ça ira bien, et le test du succès est beaucoup plus éprouvant que le test de l'échec. Parce que dans l'échec, on est porté à se tourner vers Dieu, mais dans le succès, on est porté à se regarder dans le miroir et puis se mettre des étoiles de réussite. Il dit, fais attention, c'est sérieux. On a besoin de se rappeler ces choses-là. La menace vient de l'intérieur. Et il savait très bien. Et Israël était comme aujourd'hui, et c'est Éphésiens pourrait être résumé, l'épître d'Éphésiens pourrait être résumé en une phrase dans le « déjà et pas encore ». Éphésiens va dire « vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes ». C'est déjà fait, mais ce n'est pas encore, parce que vous êtes quand même sur la terre. Israël était déjà... Revenons à notre contexte. Israël s'apprête à arriver à la fin de sa dernière année, juste avant de rentrer dans le pays promis. Et lorsqu'il va rentrer dans le pays promis, Israël aussi est dans le déjà, mais pas encore. Il est déjà dans cette terre promise où il a le lait, le miel et toute l'abondance, mais en même temps, il n'est pas dans le encore parce que, en fait, il y a une aspiration qu'ils ont, ils attendent le Messie, ils attendent le Sauveur. Ces promesses qu'on a lues, en fait, au CEP, on a eu 3 dimanches sur Noël. Le concert de Noël, dimanche passé, on a fait grandement allusion aussi, et ce matin. Et on a entendu ces prophètes de plus des milliers d'années qui annonçaient la venue d'un Sauveur. Donc, ils étaient déjà en possession de cette promesse, de cette terre promise, mais ils n'étaient pas encore pleinement en possession de ce Messie qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, c'est ce Messie que nous célébrons aujourd'hui comme tel. Et le Seigneur disait, vous allez avoir un moment dans votre vie, je vais vous permettre de rentrer là-dedans, mon Messie même va arriver, mais lorsque ça va arriver, prends garde à ton cœur. Et là, on regarde Israël, puis on se dit, ben ça c'est eux, nous on est correct, parce que maintenant on est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Non. Nous sommes nous aussi dans le déjà, mais pas encore. Une étape de plus que nos pères, mais on est toujours dans le déjà, mais pas encore. Et dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, c'est tellement facile que Noël devienne un événement religieux écrit dans notre agenda. Puis on va venir, puis là on se rappelle une fois par année que le Sauveur est né, puis on arrive. Mais est-ce que vraiment on se souvient d'où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on a vraiment compris qui est Dieu? Est-ce qu'on se souvient dans notre cœur? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Et parfois on peut dire, oh, c'est une fête, puis on se réjouit, mais on ne réalise pas le prix qui a dû être payé pour que nous puissions aujourd'hui, nous réjouir. On continue, je veux terminer ce message avec ce dernier point, la conquête. Quelle est la plus grande conquête? La terre promise ou le Messie promis? Le Messie promis, yes! C'est le Messie promis! Effectivement! Et la logique voudrait justement, moi je veux conquérir le Messie parce que le Messie va me conduire à la terre promise. C'est logique. Et nous sommes dans cet exode, nous encore aujourd'hui. Le peuple d'Israël a vécu cet exode sous la direction du grand berger à cette époque-là de Moïse. Et aujourd'hui, nous sommes sous la direction de Jésus. Moïse préfigurait Jésus. Et si je suis Jésus, j'arrive à la terre sainte, à la terre promise. Et ici, j'arrive à la fin du message. Et c'est important de saisir ceci dans la pensée du peuple d'Israël pour bien comprendre tout ce qui était dit jusqu'à présent et pour la fin. Le langage dans l'oreille des Israélites de l'époque, le langage de la bénédiction, la sainteté, la promesse, le don, l'héritage, ainsi de suite, n'était dans le Nouveau Testament n'est plus rattaché à un lieu géographique comme les Juifs de l'Ancien Testament. En fait, on a besoin de comprendre que cette terre promise, cette terre sainte, il y a eu un transfert entre la terre sainte dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus. À cause déjà, parce que le christianisme s'est répandu partout, donc c'était plus limité à un peuple, Israël, mais à travers toutes les nations. Et la notion de sainteté est transférée du pays à Christ lui-même. Autrement dit, la présence spirituelle, vivante, qui rend quelque chose ou un endroit saint, c'est là où des croyants se trouvent. Ce n'est plus un lieu géographique. Ce n'est plus un lieu géographique. Verset 18, et dit, on va lire les 3 derniers versets. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Prochaine diapo, simplement ce commentaire. « Aujourd'hui, pour nous, plus que jamais, Dieu confirme son alliance éternelle à travers la naissance de son Fils. » Plus que jamais. Aujourd'hui, Dieu confirme son alliance éternelle à travers la naissance de son Fils. Les 2 derniers versets de notre texte. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Joyeux Noël! C'est dur, hein? On a besoin de comprendre quelque chose. Je parlais de grâce et de vérité. Et je veux le dire avec la plus grande des douceurs. On a besoin de comprendre quelque chose. Le peuple d'Israël comprenait très bien le langage de l'Alliance. Il y avait des termes politiques. Et ça, on le réalise très peu, que dans la Bible, Dieu a une politique, une façon d'agir, des comportements adoptés. Alliance Bérite veut dire traité. Et ce mot-là, traité, alliance, était au cœur des relations d'Israël avec leur Dieu. Des traités étaient faits entre des individus et des nations. Et vous savez, ça impliquait toujours, toujours, toujours un devoir d'engagement. Ça n'était pas à sens unique, tout le temps. Un devoir d'engagement. Et quand Israël entend des notions comme salut, loyauté, délivrance, paix, justice, droiture, confiance, fidélité, obéissance, règne de Dieu, on parle de, hein, de règne, là où il y a un royaume, il y a des politiques, c'est clair. Eh bien, nos pères comprenaient ces concepts à la lumière de leur compréhension enracinée dans leur histoire avec des alliances. Et nous, aujourd'hui, on arrive, youpi! Parfois, on peut mettre les pieds sur la voiture, mais c'est pas grave, puis je vis comme je veux, et Dieu me pardonne parce que c'est un Dieu de grâce. Joyeux Noël! Non. Non, pas youpi! Puis je mets, puis je fais tout et n'importe quoi, puis non! Non! Il y a une alliance! Là, je n'ai pas le temps, je n'ai fait aucun lien avec le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament est très exigeant aussi. Mais la bonne nouvelle, vous allez dire, elle est où? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, on a un Jésus vivant qui nous donne la force d'y arriver. La bonne nouvelle, c'est que quand on chute, il nous relève. Mais il ne nous relève pas pour recommencer à faire pire ou la même chose, il nous relève pour qu'on s'améliore. Il nous relève pour dire, Seigneur, je regarde mon parcours, puis oh, le test, à ce moment-là, ce n'est pas trop, trop révélateur positif de mon attitude à ton égard et à l'égard de mon entourage. Seigneur, je te demande pardon. Et on a besoin de réaliser que ce joyeux Noël, il est là dans la mesure où on réalise la douleur que cela a coûté à Jésus. On chante le chant des anges, la naissance d'un bébé, etc. Mais juste ça, et arrêtons-nous quelques instants, hein, les enfants. Vous savez qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui a créé ces milliards de galaxies. Ce Dieu-là s'est condensé dans le corps d'un bébé. Waouh! Juste ça, je me dis... Il me semble que je sortirais tellement à l'étroit dans un petit poussin maintenant, dans un œuf. Imagine, juste moi à mon niveau, tu dis, bon, mais Philippe, là, pour qu'il puisse être compris par les poussins des poules, là, on va l'enfermer dans un œuf. OK. Il me semble, comparativement à la liberté que j'ai connue, à un univers sans limite, là, tu es comme à l'étroit dans un corps. Tu dis, wow. Déjà là, il y a une souffrance qu'on ne réalise pas. Il y a un prix déjà qui a déjà commencé à être payé. Je réponds à la question, quelle est la plus grande conquête, la terre promise ou Messie promis? C'est le Messie promis, mais vous savez quoi? Ça, c'est de notre perception à nous. Nous regardons la terre promise, le paradis, le ciel, l'éternité, appelons-le comme on veut. Nous regardons le Messie promis, le Sauveur, etc. Ça, c'est notre perception à nous. Mais la plus grande conquête jamais exécutée à ce jour, c'est celui du cœur de l'homme, de l'enfant, de l'adolescent, de la jeune fille, de la jeune femme, de la personne âgée. C'est ton cœur. Ça, c'est la perspective de Dieu. Dieu, la terre promise, facile. Se donner, ça, c'est pas facile à la croix, mais il l'a fait. Faisable. Il l'a fait. Par contre, la plus grande conquête de la perspective divine, c'est ton cœur et mon cœur. Et c'est pour ça que Jésus naquit. Pour de la crèche, grandir, mourir et naître dans mon cœur. Afin de l'intérieur, changer, transformer ma vie. Nous, on voit une épreuve et on dit, pourquoi telle épreuve? Dieu dit, pourquoi, en deux mots, pourquoi? Hein, c'est pas, pourquoi telle épreuve? Dieu dit, pour quelle raison tu penses? Ou qu'est-ce que je vais faire ressortir de là? Nous avons peur de l'adversité extérieure. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je mange à la fin du mois? Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'attaquer? Est-ce que Dieu a peur de l'adversité, peur entre guillemets de l'adversité intérieure? Nous fixons nos yeux sur la terre, le paradis. Dieu regarde à ton cœur, à mon cœur. On a été sauvés de l'empire d'Égypte, qui était en fait aujourd'hui, qui reflète l'emprise du péché. On était sous l'exode de Moïse, nous sommes maintenant sous l'exode de Jésus. Ils avaient les yeux fixés sur la terre promise, nous avons maintenant, nous, les yeux fixés sur notre entraîneur, sur le Messie promis. Je termine avec ceci maintenant. Nous aimons voir en Jésus le bon berger, mais sommes-nous autant à l'aise avec la notion d'être la brebis qui obéit à sa voix? Ah, le bon berger, je l'aime, le bon berger. Oh, l'Éternel est mon berger. Et remarquez que tout ce qu'il y a dans la description de cette terre, un pays d'abondant où le lait va couler, où tu ne manqueras de rien, je vous ai dit, il y a un transfert de la terre à la personne. En fait, tous ces qualificatifs-là, vous les retrouvez dans la personne de Jésus. Il y a tous les oligo-éléments nécessaires dans la personne de Jésus. Il est ce fleuve qui coule dans cette vallée. Il est là, tout est en Jésus. Ah, le bon berger. Sommes-nous autant à l'aise avec la notion d'être la brebis qui écoute? Prochaine diapo, deux incohérences. La première, je ne peux me réjouir pour Noël si je refuse de me repentir de ma nature charnelle. Je ne peux pas arriver, joyeux Noël, oui, joyeux Noël, les anges dans nos campagnes, puis continuer à laisser s'exprimer ma nature charnelle sans que cela me dérange. À un moment donné, il faut que je m'arrête, puis je me repente. Puis je dis, Seigneur, je te demande pardon. Ça, c'est une incohérence de ma part de joyeux Noël. Et puis là, je continue à critiquer, je continue à jalouser, je continue, puis ça ne me dérange pas. Puis je ne fais rien pour que ça change, puis je ne me tourne même pas vers Dieu pour dire « Seigneur, j'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il n'y a même pas ça. On a besoin de se remettre en question. Autre incohérence, la dernière incohérence, « Célébrer sa naissance sans élever le niveau de mon obéissance. » C'est de la pure incohérence. La naissance de Jésus. C'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure. Mais si je célèbre sa naissance avec les bras bien en l'air, ah, puis je crie fort, sans élever le niveau de mon obéissance, ce n'est pas parce que Dieu s'est manifesté dans le corps d'un bébé que Dieu doit être pris à la légèreté. La dernière, et j'ai fini, je ferme ma Bible, la preuve. Cet enfant est né en Seigneur, Et c'est parce qu'il est né en Seigneur qu'il devient mon sauveur. Et nous renversons trop souvent la mathématique. Avant d'être sauveur, la question qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, que je me pose, c'est est-il mon Seigneur? Est-il encore mon Seigneur? Est-il celui qui a droit de parole dans ma vie? Est-il celui devant lequel je dois plier mes genoux parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec lui? C'est pas juste. Il n'est pas venu. Jésus n'est pas venu en sauveur. Jésus est venu. Dieu n'est pas venu en sauveur. Il est venu pour sauver, mais il est venu en Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, vous dites, c'est où la bonne nouvelle? Joyeux Noël ici, on peut maintenant, on finit. Joyeux Noël. Et où la bonne nouvelle? Mais c'est là la bonne nouvelle. Il est Seigneur. Il domine sur l'histoire. Il domine sur les circonstances. Il domine sur les imprévus. Il domine sur la méchanceté dans notre cœur. Il domine sur le passé, le présent et le futur. Il domine sur la mort. Il domine sur l'enfer. Il domine sur tout. Il est Seigneur. Et parce qu'il est tellement Seigneur que je peux m'assurer qu'il soit mon sauveur. S'il n'était pas Seigneur, il ne serait pas mon sauveur. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et c'est vrai, on pourrait continuer, mais on n'est pas là pour s'entendre parler. Joyeux Noël à tous et que le Seigneur nous garde dans le creux de sa main et protège nos cœurs à tous. Qu'on sorte de ce lieu, non pas avec, mais avec la joie de dire, ouais, t'es mon Seigneur.